Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, une balade inquiétante mais lumineuse en Italie. Une BD familiale un peu déjantée et l'histoire incroyable d'une comédienne turque. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est un jeune auteur devenu populaire depuis son premier roman La Chambre des Merveilles, qui a connu le succès dans 26 pays et qui est en cours d'adaptation au cinéma. Julien Sandrel publie un quatrième livre qui nous emmène en Italie lors du drame du pont de Gênes. Un livre sur la possibilité de choisir une famille et de quitter la noirceur de sa vie pour le soleil. Florence Sestac revient avec une nouvelle BD. Elle raconte sa famille avec une tonalité proche du génie de Franquin. Drôle et sincère, un album qui fait du bien. Il y aura tout à l'heure une grosse surprise pour vous qui nous écoutez, mais aussi pour Florence. Et puis nous irons dans l'univers de la comédie turque, celle du cinéma, mais aussi de la société. La dramaturge et scénariste Sedef Ecer publie un premier roman en français, une fresque culturelle à Istanbul. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. En Belgique, il y a Nathalie Clairin. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Anne-Rosine Calabro est libraire en Martinique. Elle représente la France. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
En plein hiver, il paraît que l'eau est glaciale en ce moment.
Complètement. Ça aide à être au moins à 25 ou 24,
voilà,
mais c'est
très,
terrible.
Très, très dur pour vous en Martinique. On compatit, bien sûr. Ouais. Bonjour, ouais, Josiane Letourneau. Elle va être ravie d'entendre ça. Josiane représente le Canada. Bonjour, Josiane.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie du Square. Il fait combien en ce moment à Montréal?
Alors, ressenti moins 6.
Oui, ça va, c'est raisonnable. Bon, on vous retrouve dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV de Radio-Canada en multidiffusion et aussi sur TV5 Monde ce dimanche à 19h. Cap sur la Suisse avec Claire Renaud. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, vous dans la librairie Atmosphère. Et on commence avec une petite anecdote de libraire pour se chauffer, Claire.
Oui, alors pendant les fêtes, j'ai mis dans la vitrine une affiche de Loïc Prigent. Parce que nous avons aussi une galerie en haut où on vend plein d'affiches. Et sur cette affiche, c'était écrit, vous savez qu'il recueille plein de phrases au resto, dans le bus, etc. Mm-hmm. C'était écrit, bonjour, vous avez des livres à couverture bleue, s'il vous plaît. Donc, j'avais mis cette affiche dans la vitrine. Quelques semaines après, j'ai une cliente qui m'a appelée et qui me dit, bonjour, j'ai vu que vous aviez mis une pancarte dans votre vitrine qui disait que vous cherchiez des livres à couverture bleue. Alors, moi, j'en ai plein à la maison. Est-ce que vous me les rachetez? Alors, j'ai dû me retenir de rire et je lui ai expliqué qu'il s'agissait simplement d'une affiche sur laquelle était écrite ceci. Mais... je ne sais pas si elle a compris, hein, à part ça. Mais enfin, voilà.
Bon, livre à la couverture bleue, il y a les éditions Stock, Mercure de France aussi, la couverture est bleue, il y a le choix, hein, en fait. Vous pouvez en trouver.
Il y a beaucoup. L'air de rien.
Bon, merci beaucoup pour cette histoire, Claire. On part tout de suite en Italie avec Julien Sandrel. Et bonjour Julien Sandrel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vers le soleil, c'est le titre de votre nouveau roman. Et ce titre de Jean-Jacques Goldman illustre bien votre histoire. Il y a même une adaptation de cette chanson à un moment, avec le prénom Sacha au lieu de là-bas. Sacha, il est un peu perdu dans la vie, jusqu'au jour où il rencontre une certaine Tess, qui lui fait une proposition un peu immorale.
Oui, tout à fait. Sacha rencontre Tess et en fait, Tess lui propose de jouer dans la vie de sa fille, qui est une enfant un peu particulière, le rôle d'un oncle, le rôle de quelqu'un, une présence masculine qu'elle n'a pas aujourd'hui. On ne sait pas trop quels sont les tenants et aboutissants de cette demande. Et j'ai été inspiré dans cette demande un peu originale par le phénomène des acteurs pour clients privés au Japon.
Ah oui, alors ça existe vraiment parce qu'elle le dit, ça. J'ai vu ça au Japon. Des comédiens qui endossent des rôles pour la vie, la vraie vie.
Exactement. Alors moi, je suis tombé sur un reportage totalement fascinant et édifiant où il y avait notamment une jeune femme qui ne voulait absolument pas que sa future belle-famille rencontre sa propre famille et donc elle avait loué les services d'une vingtaine d'acteurs pour jouer sa propre famille le jour de son mariage.
Ah oui.
Et je me suis posé évidemment la question, mais qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme comme ça? Qu'est-ce qu'elle a pu vivre dans sa vie? Qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme comme ça à embaucher comme ça une vingtaine d'acteurs? Et d'un autre côté, qu'est-ce qui peut pousser un acteur à accepter ce genre de mission? Être acteur, par définition, c'est mentir d'une certaine façon, mais c'est un mensonge organisé sur une scène de théâtre ou en face d'une caméra.
Qui n'a pas de conséquences. Ouais.
Qui n'a pas de conséquences. Et là, c'est un mensonge qui est quand même très particulier, puisqu'on accepte de mentir sciemment à des personnes qui ne sont pas du tout au courant.
Alors, Sacha va se poser la question. Alors, c'est un jeune homme un peu solitaire. Hein. Il dit qu'il est un vieux routier de la solitude. J'ai appris dans la douleur à quel point se lier à quelqu'un pouvait rendre malheureux. Alors, je ne m'attache pas. C'est un peu le Caliméro du coin, hein, votre Sacha, mais c'est vrai qu'il se dit, est-ce que je vais y arriver, en fait, à mentir à une petite fille, en plus?
Oui, alors finalement, ça lui va plutôt bien, cette situation, parce que, justement, comme vous le disiez, il a une peur panique de l'attachement, Sacha. Donc, il ne veut pas s'engager, il ne veut pas s'attacher. D'ailleurs, même dans ses passions, en fait, il y a cette histoire d'éphémère, parce qu'il est passionné de théâtre, il fait du théâtre, il est aussi passionné de haïku. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est uniquement dans l'éphémère. Donc, finalement, cette histoire d'attachement, mais sans véritable engagement, ça lui va plutôt bien.
Alors, il va s'occuper de cette petite fille, Sienna, comme un tonton affectueux. C'est une petite fille très intelligente, mais elle a un handicap rare. Elle ne perçoit ni les odeurs, ni les saveurs. Elle est anosmique.
Alors, je précise que j'ai inventé ce personnage avant le début de la pandémie.
Ah oui, tiens, j'avais pas pensé.
Puisque l'anosmie a été quand même rendue assez populaire, malheureusement, par la pandémie. Et oui, effectivement, cette enfant est très particulière. Elle a ce qu'on appelle un handicap invisible, puisqu'elle ne sent ni les goûts, ni les odeurs. Et c'est un véritable handicap, puisque ça peut mettre sa vie en danger, évidemment, s'il y a un feu quelque part, etc. Elle est incapable de le percevoir. Et c'est une petite fille qui est extrêmement forte, puisque elle a décidé, contre toute attente, de devenir chef cuisinière. Et là aussi, j'ai été inspiré par un reportage sur lequel j'étais tombé, d'une jeune femme qui était sourde de naissance et qui avait décidé de devenir avocate, qui a réussi. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, c'est ce genre de caractère dont j'ai envie pour cet enfant.
Et vous aimez Ratatouille aussi, le personnage de Walt Disney?
Ouais, j'aime bien.
Parce qu'en fait, c'est ça qui l'inspire aussi, votre cinéma, c'est Ratatouille.
La devise dans Ratatouille, c'est tout le monde peut cuisiner. Oui. Et donc, évidemment, pour une enfant anosmique, c'est quand même une devise assez inspirante.
Alors, c'est vrai que c'est un facteur de risque. Hein. Il y a beaucoup d'accidents domestiques avec les anosmiques. Julien Sandrel, vous en parlez d'ailleurs. 3 ans se passent. Et ils partent en vacances en Italie, tous les 3. Tess va les rejoindre en s'arrêtant à Gênes, parce qu'elle a des affaires à finir où elle est. Et puis sa meilleure amie habite sous le viaduc de Gênes. Elle y est, justement, elle y arrive à Gênes le 14 août 2018. À 11h36, elle est là-bas au moment où le viaduc s'effondre et fait 43 morts.
Exactement, donc c'est le point de départ de l'histoire, puisque Sacha se retrouve tout seul en Toscane, en vacances, dans des paysages absolument grandioses pour des vacances qui s'annonçaient superbes. Et il se retrouve tout seul avec cet enfant, avec laquelle il n'a absolument aucun lien légal, et ils sont sans nouvelles de Tess, puisqu'elle est portée disparue dans l'effondrement du pont de Gênes. Et donc Sacha va passer par toute une palette de sentiments. Il va devoir se poser les bonnes questions concernant justement son attachement à cette petite fille.
Bah, Sacha va devoir prendre une décision terrible. On en parle après nos libraires qui ont lu votre livre, Julien Sandrel. La Suisse, le Canada, on commence par qui?
Allez, partons au Canada.
Partons au Canada. Josiane Letourneau, -6.
Eh bien, il ne fait aucun doute pour moi que ce roman, c'est un film en soi. Et comme plusieurs œuvres aux qualités cinématographiques, il a pour moteur la magie du voyage, l'intrigue et l'émotion. Vos personnages, Julien Sandrel, ils sont sympathiques, on s'attache à eux, on a envie de les voir traverser toutes les adversités et on a surtout envie de savoir comment le drame entremêlé à la folle aventure va se terminer.
Vous avez séduit notre libraire du Québec. On va voir du côté de la Suisse, Claire Renaud. Êtes-vous d'accord?
Tout à fait d'accord. D'ailleurs, si je devais résumer ce livre en deux mots, enfin en un mot, excusez-moi, ça serait un hymne à la vie. Et le diktat, c'est profiter du moment présent.
Mmh. Enfin, non, c'est pas un mot, ça, hein, du coup.
Non, je suis comptée, Emmanuel. Je suis très mauvaise en maths. Et puis alors, il y a l'Italie que vous nous comptez, mais tellement bien. Les paysages, Sienne, Venise, cette maison louée où on a envie de joindre tous ces personnages hauts en couleur et de manger avec eux. Enfin, vos personnages ont une prise sur leur destin, ce qui rend cette lecture haletante et jouissive. Vous l'aurez compris, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre et je le recommanderai.
Voilà, Julien.
Merci beaucoup.
Réussite dans la librairie francophone, c'est votre première venue dans cette émission. On avait fait la version estivale avec une balade à hier, mais il n'y avait pas les libraires, ça rime. Bon, Sacha va apprendre toute l'histoire de Tess d'origine britannique qui a dû changer d'identité. Et vous racontez que dans le droit anglais, et ça c'est vrai, j'ai vérifié, c'est vrai aussi, on peut changer de nom à sa guise. On va chez le notaire et c'est fait. Au Royaume-Uni, plus de 60 000 personnes changent de nom chaque année.
Oui, en fait, dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre, ils ont une conception du nom qui est extrêmement différente de la nôtre. C'est vrai qu'en France, on est extrêmement attaché à notre nom et ça nous identifie de manière parfaite. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de gens qui décident de changer de nom parce qu'ils pensent que ça n'est pas si important que ça. Alors évidemment, il y a d'autres moyens d'identifier les personnes, notamment les numéros de sécurité sociale, mais le nom n'est pas quelque chose qui est fondamental chez eux.
Alors du coup, voilà, c'est ce qu'elle va faire parce qu'elle a connu la violence conjugale à son paroxysme. Pour protéger sa fille, elle a dû fuir. Et Sacha, désemparée, on va pas tout raconter, hein, c'est compliqué, hein, mais j'essaye de garder du suspense. Après la catastrophe de Gênes, va se retrouver dans l'obligation de fuir à son tour. Il va réinventer la fuite avec un jeu pour la fillette. On pense au film italien La vie est belle, Julien Sandrel, parce qu'il y a ce prisonnier dans ce film où il est dans un camp et il réinvente la vie pour un enfant prisonnier lui aussi, son fils. Vous avez pensé à ce film-là ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. En fait, quand j'écris, j'ai souvent des références cinématographiques en tête. J'avais évidemment La vie est belle de Roberto Benigni, mais j'avais également le film avec Kevin Costner qui s'appelle Un monde parfait, dans lequel il est en fuite avec un enfant également. Ça m'intéressait effectivement cette ambiance-là. Et c'est vrai que Sacha, à un moment donné, va devoir prendre cette décision. Est-ce que je prends le risque de perdre cet enfant ou est-ce que je prends une autre sorte de risque en fuite avec elle de manière illégale.
Sacha va mûrir, en tout cas on le voit mûrir tout au long du livre, il va choisir cette vie, cette petite fille qui n'est pas la sienne. Vous défendez cette idée, Julien Sandrel, que l'on peut finalement choisir en partie sa famille.
Oui, c'est quelque chose que je pense très profondément. Je pense qu'on a une famille à la base, une famille avec des liens du sang ou pas, puisqu'il peut y avoir des familles avec des personnes adoptées et donc du coup aucun lien du sang dès le départ. Et je pense que quand on devient adulte et quand on grandit, on a la possibilité de se choisir une famille et de se choisir une sorte de tribu.
Ouais, c'est ce qu'a fait Florence Sestac dans sa jeunesse, figurez-vous. Bonjour Florence.
Bonjour.
On verra ça avec votre bande dessinée. Vous avez choisi avec votre mec d'aller vivre dans la famille de votre copain.
Exactement. Voilà.
Vous avez choisi votre famille à un moment.
Hein, exactement.
Sur une période courte, mais ça.
Je l'ai fait.
Ouais,
l'ai
ça fait. Vous a rassuré?
Bah, ça m'a fait du bien surtout. Ouais. Parce que j'avais un père un peu spécial, mais qui était un modèle des années 60, mais.
Un père formidable.
Formidable.
On va voir ça tout à l'heure. Tess va sortir des décombres ou pas. On ne sait pas, Julien Sandrel. Comment Sacha va-t-il fuir? Vous le saurez donc en lisant ce roman de Julien Sandrel. Où en est votre adaptation au cinéma de La Chambre des Merveilles?
Alors le tournage a commencé début février, donc les producteurs, donc c'est les personnes qui ont fait La Famille Bélier, qui ont fait l'adaptation de Petit Pays, le roman de Gaël Faye.
Ah oui.
La réalisatrice c'est Lisa Asuelos.
Ah bah, génial.
Et l'actrice principale c'est Alexandra Lamy.
Ah moins bien. Non je plaisante.
Elle sera ravie de vous entendre.
Non je plaisante.
Non en plus je suis allé sur le tournage il y a deux jours et honnêtement ce que j'ai vu pour l'instant je la trouve formidable dans ce rôle de cette maman qui se bat pour réveiller son fils du coma.
Ouais, tout est réuni pour faire un super film, hein, figurez-vous.
Bah en tout cas, moi j'ai l'impression.
Ouais. Vous avez choisi.
Moi je suis pas très objectif.
Vous avez choisi les producteurs, vous avez choisi la réalisatrice.
Alors j'ai choisi les producteurs avec ma maison d'édition et après ensuite c'est les producteurs qui ont vraiment géré ce projet de A à Z. Mais je suis absolument ravi de la manière dont ça s'oriente.
Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas.
Merci beaucoup.
On en reparlera j'espère ensemble. Merci Julien Sandrel.
Merci
beaucoup. Vers le soleil est paru chez Calman Lévy.
La librairie francophone. Emmanuel Guérad.
La chronique des libraires, première partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Nathalie Clairin en Belgique, un coup de gueule.
Oui, pas contente Emmanuel, pas contente sur la couverture d'un roman noir.
En fait, c'est une maison d'édition que j'aime par ailleurs beaucoup, je tiens à le préciser. Elle est d'une très grande qualité. Grâce à elle, on a les traductions de centaines de romans étrangers. Paul Auster, Nancy Houston, Ashley Erdogan. Très connue pour la série Millennium de Stieg Larsson dans sa collection noire. Vous l'aurez reconnu, c'est Actes Sud. Mais voilà, sort actuellement le nouveau roman Le musée des femmes assassinées. Il est question de meurtres de femmes et d'art moderne, ok. Et moi, où je m'indigne, c'est sur la couverture du livre. En gros, c'est une femme, une corde et du sang, mais dans une mise en scène d'une violence glauque, c'est pas possible. Donc, ouais. C'est le travail de l'illustratrice Eugenia Loli. Techniquement, moi, je le trouve au point, très au point, même créatif, mais je trouve ça vraiment exagéré. Moi, dans ce contexte-là, je voudrais bien que l'image elle reste dans la suggestion et que ce ne soit pas si sordide.
Bon, en tout cas, Actes Sud est réputé pour des couvertures très réussies en général, hein, que ce soit effectivement dans la série noire ou bien dans les livres contemporains, dans les romans contemporains, c'est plutôt pas mal, mais ça, voilà, ça peut arriver.
C'est raffiné.
Pardon ?
C'est toujours très raffiné, justement.
Oui, c'est vrai, c'est souvent raffiné. Et là, bah, c'est manqué, c'est le musée des femmes assassinées. Appel aux éditions Actes Sud, qui nous écoutent, bien sûr. Vous referez une couverture avec un autre tirage. Merci beaucoup pour ce coup de gueule, Nathalie. Anne-Rosine Calabro pour La France, un coup de cœur.
Oui, alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour un livre, pour le coup, pas sordide du tout, avec de jolies illustrations. C'est Une année en poésie, édité chez Gallimard Jeunesse. C'est un très beau recueil de 365 poèmes sélectionnés par Emmanuel Leroyer à offrir aux enfants pour qu'ils découvrent les plus grands poètes comme Hugo, Louise Labbé, Prévert, Maurice Carême, André Chédid, Louise Michel et beaucoup d'autres. Et j'ai vraiment adoré ce livre avec ses sublimes illustrations, pas sordides encore, de Fran Preston Gannon et surtout la préface d'Isabelle Carré qui est géniale.
Oui, Une année en poésie, un poème à partager chaque jour. Quelle belle idée aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Anne. À suivre, une histoire familiale en BD avec la grande Florence Sestac et une grosse surprise. Restez à l'écoute, ça va vous plaire. Ce sera après, elle est toute inquiète, Florence, du coup. Ce sera après le groupe belge d'influence créole Sage comme des sauvages dans la librairie francophone.
Amis, quel droit donc que la fumée ? Quel droit avons-nous choisi de lui donner ? Le rhum est sans danger, le rhum est sans danger. L'alcool est sans danger, le rhum est sans danger, le rhum est sans danger, l'alcool est sans danger. Ami, soigne ma peur et mon courage, la vie a mordu mon cœur et mon courage. Toi mon médicament, sois mon médicament, mais pas mes sentiments.
C'était Sage comme des sauvages avec le goût de la fumée.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérade.
Et Florence Sestac est donc avec nous pour Un papa et une maman, une famille formidable, la mienne, paru chez Dargo. Vous confiez votre enfance dans une famille bourgeoise avec un père très sûr de lui et très sûr de sa réussite.
Bien sûr. Mais c'est le patriarche dans toute sa splendeur, voilà, qui était quand même un modèle courant à l'époque. Et surtout, la femme ne travaillait pas. Ouais. Devait s'occuper des enfants. Très important.
Ouais. Oui, d'ailleurs, il dit, si je me suis mariée, c'est pour me faire servir. Voilà. Il dit ça à table.
Exactement. Et c'est la première phrase du livre. Effectivement, oui. Ça donne tout de suite l'ambiance. Et oui. C'est que ça sera comme ça jusqu'au bout, quoi. Voilà. Je me suis toujours demandé pourquoi mon père avait fait des enfants.
Ouais. Alors moi, je conseille à tous les hommes mariés qui nous écoutent, Julien Sandrel, c'est votre cas, essayez de dire ça ce soir. Ça peut changer votre vie et faire de vous un pacha.
Plus ou moins. Je pense que ça aurait un effet un peu inverse.
Comment elle réagissait, votre maman, dans ce cas-là, Florence?
Elle ne disait rien, elle était soumise, et mon père avait tout fait depuis le début pour la maintenir en état de dépendance totale, quoi.
Ah oui.
Elle s'occupait de rien, à part la maison et ses enfants. Il lui donnait, par exemple, de l'argent liquide en début de semaine pour faire les courses et tout ça, et elle n'a jamais signé un chèque ni servi une carte bleue de sa vie, quoi. Elle était maintenue en état de dépendance. Et lui, par contre, il allait se promener, il allait à la chasse, il allait jouer au tennis, il jouait au bridge, il faisait sa vie, quoi.
Voilà. Alors, vous racontez que pour un rien à table, il devenait un pitbull, hein, c'est votre mot. Trop de vinaigre dans la salade pouvait le faire vriller.
Voilà, il était très, très colérique et tout, il piquait des colères, et donc là, on sauvait tous, on se cachait sous les meubles parce que c'était terrible. Tout le temps.
Et avec vous, il n'est pas très affectueux, Florence Sestac. S'occuper de ses enfants, ça ne l'intéresse pas, vous dites. Oui. Pour l'affectif, c'était régime sec.
Oui, c'est pour ça que je me suis posé toujours la question pourquoi il a fait des enfants, parce que on l'intéressait pas du tout. On était trois enfants et ni mon frère ni ma sœur l'ont intéressé plus que moi, quoi. Et donc voilà, on devait suivre comme ça, on devait être élevés un peu comme des lapins, et donc on manquait de rien. On était bien habillés.
Il vous tient comme des lapins d'ailleurs, hein, voilà, dans la bande dessinée. Non, mais quand il a son fils, quand vous arrivez vous, il dit oh mince, encore une fille. Quoi.
Et, oui.
Et il vous tient à bout de bras, et puis voilà, il va arriver à avoir un garçon. Voilà. Mais quand votre frère pleure et demande les bras de son père lui dit va voir ta mère.
Oui, toujours.
Jamais dans les bras.
Jamais. J'ai pas de souvenir que mon père m'ait touché un jour ou pris sur ses genoux ou embrassé et tout ça. Jamais. Très distant toujours, très distant.
Alors, il a fait des enfants jusqu'à avoir un garçon, donc deux filles, un garçon, la famille idéale est en place. Oui. Et en plus, il décroche un job en or, tout pour le bonheur, pour tout le monde, sauf pour vous, en
Exactement.
Fait.
Et donc, moi,
sauf
je me
pour
suis...
cette famille-là.
Voilà. Moi, je me suis construite contre cette famille-là. C'est-à-dire qu'à 12 ans, j'ai demandé d'aller en pension. Alors que, bon, si vous avez un enfant maintenant qui vous demande d'aller en pension, vous allez lui dire, mais pourquoi tu veux aller en pension?
Oui, il y a un problème.
Alors que mon père a dit, ah bon, ben, on s'en occupe, et trois jours après, j'étais en pension. Mmh. Et donc, j'ai quitté cette famille-là, et donc, à partir de 12 ans, après la pension, j'ai fait les beaux-arts et tout, et puis je me suis très éloignée de cette famille, donc je me suis construite en dehors.
Alors,
et
on va
puis
y venir.
Je suis devenue le vilain petit canard de la famille.
C'est ça. Alors, il trouve ses enfants plutôt nuls, hein, en général, d'ailleurs. Il vous dévalorise. Quand la petite Florence dit qu'elle ferait bien un métier artistique, lui vous dira, faut juste avoir du talent.
Voilà.
Genre, faut-il encore avoir du talent?
Exactement. Si je veux apprendre à jouer du piano, il dit, ça sert à rien.
Et comment vous réagissiez à ce moment-là?
J'étais petite à ce moment-là et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'étais toujours envoyée dans mes cordes comme ça. Et puis après, effectivement, je me suis sauvée. J'ai pris de la distance, quoi. C'était la meilleure solution.
Alors c'est triste à dire comme ça, là.
Oui.
Et pourtant, c'est très drôle comme bande dessinée. Je le disais tout à l'heure dans le générique, il y a un petit côté franquin, Florence Sestac. Je sais que ça va vous flatter parce que, mais c'est très sincère, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pensé aux idées noires, j'ai pensé à tous les personnages de franquin, tous ceux qu'on connaît, qui sont rigolos comme ça. Vous avez fait un mélange des deux et c'est très réussi.
Ben, merci. Mais c'est vrai que je joue souvent avec ça. Dans mes précédents albums, c'était comme ça. Je joue avec le rire et les larmes en permanence.
Ouais, c'est ça. Alors, vous ferez quand même les beaux-arts au grand désespoir de votre père. Vous allez adopter un look baba cool. Votre père voudra vous trouver un chum, comme on dit au Québec, un mec. On vous oblige à aller à un bal.
Exactement.
Et là, bah, vous picolez.
Exactement. Alors, mon père était ingénieur des arts et métiers, et donc le but, c'était que moi aussi, je trouve un mari qui soit aux arts et métiers. Donc, on nous emmenait, ma sœur et moi, au bal, danser tous les ans pour trouver un mari, quoi. Et donc, moi, le jour où ils m'ont emmené, j'ai pris une cuite monumentale et mes copains des Beaux-Arts sont venus me chercher au plein milieu du bal et tout. Mmh. Et donc là, mon père, je lui ai fait la honte de sa vie.
Quoi. Eh oui. C'est-à-dire que vous dansez au bras de ces jeunes hommes de bonne famille,
exactement.
Complètement bourrés, Florence.
Voilà. Ouais. Et à un moment, les portes s'ouvrent et c'est la fanfare des Beaux-Arts qui vient me chercher. Et je me sauve avec eux, avec la robe et le chignon des fées, tout ça. Quoi. Oui,
une robe rose magnifique, pourtant, qui vous va très bien.
Très jolie.
Hein, que vous dessinez, en tout cas, très bien.
Oui. Faites par ma mère.
Oui, parce qu'elle faisait tous les vêtements.
Elle faisait toutes ses mains, bien sûr.
Ça l'occupait en même temps.
Oui, mais c'est ce côté bricolo artistique, j'ai hérité ça d'elle. Quoi.
Bah, allez, on va voir les libraires s'ils ont aimé votre bande dessinée avec le Canada et la Belgique. Cap sur le Canada, Josiane Etourneau.
Quel plaisir de lire une œuvre comme la vôtre, Florence Sestac. Une histoire qui est racontée si naturellement qu'elle respire et elle nous donne une grande bouffée d'oxygène par la même occasion. Et si j'ai surtout ri, j'ai beaucoup ri, je suis tout de même passée par toute la gamme des émotions et cet amour bancal, ce doux amer, vous le racontez à merveille avec un humour qui passe par le cœur et qui transcende absolument tout.
Ça transcende tout, effectivement. La Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, vous m'avez fait tellement rire, Florence Sestac. Il suffit d'ouvrir la BD pour en rire directement encore. Bien sûr, quand même avec beaucoup d'émotion, quand j'ai réalisé que ce tragicomique, c'était votre histoire. C'est à peine caricatural. Et moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris le parti d'en rire et de le partager. Merci. Bon.
Merci à vous Nathalie, désolé pour la liaison très compliquée aujourd'hui. Méthode Covid, on adore, vivement que ça se termine.
Merci,
bon, voilà Florence, tout va bien.
Oui, très
un contente. 14 juillet avec vos potes Baba Cool, les potes des Beaux-Arts, vous vous retrouvez au poste pour vol et destruction d'emblèmes nationaux. Votre père vient vous chercher, toujours très sûr de lui, il vous gifle et il vous dit « Allez, maintenant on rentre à la maison » et les gendarmes lui disent « Non, ça va pas se passer comme ça.
» On va la garder, on la garde, parce qu'elle va passer en procès.
Et oui.
Et sur ce, il répond « Oh, mais vous savez pas qui je suis, monsieur Sestac, j'ai le bras long. » Et il n'a pas eu le bras long parce que j'ai quand même été en tôle. Voilà.
Oui, condamné, avec une grosse amende.
Et une grosse amende et tout, et déchu de mes droits civiques pendant 5 ans.
Oh là là.
Mais c'était après mai 68.
Oui, c'était normal.
C'était dans l'air du temps, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais c'est normal que 68 soit arrivé avec une ambiance pareille. Ça leur a pété au nez, quoi.
Ouais. En l'an 2000, Florence Sestac, vous décrochez le Grand Prix d'Angoulême. Et vos parents vous disent « Ah bon, c'est bien ça ?»
Oui, mon père me répond « Ah bon, c'est bien ça ?» Oui.
Ça a duré toute votre vie, en fait.
Oui, toute ma vie. Et le seul moment où il me dit enfin une chose gentille, c'est la veille de sa mort, je vais le voir à l'hôpital, et il me rappelle et me dit viens là, et j'écoute, il me dit merci d'être venu. Mmh. Et là je fonds en larmes.
Ouais.
Voilà. Vous avez souffert.
Vous avez souffert d'être reconnu par le public, mais pas par vos parents, vous?
Oui, ça a été difficile, oui, bien sûr. Ouais. Et donc je me suis construite à côté. Ouais. Heureusement, j'ai trouvé d'autres familles. Heureusement.
D'autres familles, et puis des personnes absolument géniales. On a une surprise pour vous, Florence. On a quelqu'un qu'on aime bien, qui est complice de cette surprise en ce moment même. Vous voyez qui c'est?
Bah, c'est peut-être Daniel Pénac.
Oh là, trop facile. Bonjour Daniel Pénac.
Mon pote Pénac.
Salut ma Sestacounette.
Voilà, c'est comme ça qu'il m'appelle.
Comment? Festacounette?
Sestacounette.
Sestacounette, ah oui.
Ma Sestacounette.
Bon, merci Daniel d'être notre complice pour cette surprise. Vous avez signé la préface de cette BD. Vous connaissez bien Florence, vous avez fait un album d'ailleurs avec elle. Vous connaissiez son histoire familiale à ce point-là?
Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais oui, d'ailleurs, ce que sa bande dessinée est formidable, c'est qu'elle décrit son cas, mais ce cas, elle en décrit plein d'autres par la même occasion, parce que le papa en question, c'était un modèle du genre. J'en ai croisé quelques-uns du même acabit.
Ouais.
C'était des gens qui avaient réussi leurs études, alors ils étaient gavards, polytechniciens, normaliens, et ils tenaient l'espèce de haut du pavé pendant la reconstruction de la France, parce que ça se passe après la guerre. Et beaucoup d'entre eux, j'en ai connu beaucoup, qui étaient si extraordinairement imbus de leur personne qui pensait même pas à aimer leurs enfants. Et la question se posait pas. Le besoin d'affect ne se posait pas. Et c'était une belle brochette de crétins. J'en ai rencontré beaucoup. Et ils ne se sont même pas aperçus qu'ils allaient disparaître, parce que ce mot-là a disparu assez vite, dès le premier choc pétrolier, dès la mondialisation, hop ça, ils ont disparu, ils ne s'en sont pas aperçus.
Oui, vous dites dans la préface que le papa de Florence incarne la loi des 5 B, donc je cite, bouffe, bridge, bateau, baise et bagnole.
Oui, 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 bah, il faut aussi les comprendre, ils sortaient de la guerre, ils consommaient.
Quoi. Ah bah oui.
Ils sortaient de la guerre, ils reconstruisaient le monde, ils consommaient. Pendant cette guerre, la plupart d'entre eux ne s'étaient pas très bien conduits, très peu de résistants, beaucoup d'attentistes, quelques solides collabos. Donc, pas fiers et en même temps très heureux de ce boom économique dans lequel ils se sont installés comme des petits roitelets glorieux dans leur famille.
Vous êtes d'accord, Florence Sestac?
Absolument. Absolument, oui, oui.
Ça vous gêne pas qu'il dise ça, Daniel, de façon un peu brutale?
Non, c'est exactement ça.
Alors, bardé de diplômes, effectivement, avec une très bonne situation professionnelle, on imagine même la même chose pour ses enfants. Hein. Il y croit jusqu'au bout, votre papa. Sauf que voilà, Daniel Pénac, vous écrivez « Il vous naît une Florence ».
Oui, c'est le poème de Richepin, c'est chanté par Brassens, c'est très joli. Philistin épicier, tandis que vous caressiez vos femmes en songeant aux petits, que vos grossiers appétits engendrent. Vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Et pour bien vous punir, vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus, poètes. C'est-à-dire Florence.
Eh oui, voilà. Si vous nous rejoignez, vous avez entendu chanter Daniel Pénac au téléphone.
Hein. Ouais. Mais bon, c'est Daniel Pénac. Ouais. Hein, grâce à cet album, on a fait chanter Pénac.
C'est vrai, c'est la première fois qu'on l'entend chanter.
Eh ben,
voilà. Bon, merci Daniel, merci beaucoup.
Merci, je t'embrasse ma Flo.
Moi aussi mon Pénac, à bientôt.
À bientôt.
Moi non, hein, vous m'embrassez pas quoi.
Si, tout le monde, j'embrasse tout le monde, allez-y.
À bientôt. Merci Daniel Pénac pour cette intrusion organisée dans la librairie francophone. Merci Florence Sestac, merci.
Merci.
Sestacounette alors du coup.
Sestacounette.
Sestacounette. Oui. Un papa, une maman est paru chez Dargaud. À bientôt Florence.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
De la musique à présent avec l'écrivain, réalisateur et musicien Mathias Malzieux du groupe Dionysos qui vous présentera en avant-première le nouvel album de Dionysos avec aussi un concert en ligne prévu le 4 mars prochain. Ce sera dans la version télé de la librairie francophone multidiffusée sur RTS2 en Suisse, RTBF La 3 en Belgique, ici RTV au Canada et sur TV5 Monde ce dimanche à 19h sur le réseau France Belgique Suisse. Voici un extrait de ce moment de télévision en primeur à la radio. Vous suivez ? Moi oui, ça va. Allons-y.
Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon doigt, ma peau s'est transformée en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi.
Bonjour Mathias Malzieux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Grand
Alors
plaisir.
Vous avez initié une nouvelle façon de vous produire sur scène avec ou à cause de la crise sanitaire, on va dire.
Les deux.
Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé.
Les deux, mon capitaine. En gros, moi j'ai une double casquette là-dessus parce que en tant que directeur artistique des Trois Baudets, je participe aussi à l'organisation avec le théâtre de la ville
à Paris,
des live streams. Voilà, on a eu plein de gens super, Cali, Team Up, gens comme ça. Et c'est déjà super parce qu'on peut rallumer la lumière dans les théâtres. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. C'était super, malgré le confinement, d'essayer de faire des choses un peu en caleçon avec sa guitare dans sa webcam.
En caleçon.
Ouais, bah oui, on était tous, on faisait semblant d'avoir des trucs et on savait tous que tout le monde en dessous avait rien. Et c'était bien de vraiment d'avoir ainsi un vrai son, une vraie lumière et de faire travailler des techniciens, etc. Donc ça, c'était une première chose qui m'a redonné le goût aussi de l'autre côté. Et puis pour moi, je me suis dit, si on pouvait faire quelque chose de vraiment d'utiliser ce mal pour un bien, pour en faire quelque chose de créatif. Donc j'ai eu l'idée d'une machine à remonter le temps. Je me dis, parce que si on avait une machine à remonter le temps, on pourrait aller dans un temps où il n'y avait pas le Covid. On pourrait jouer. Donc je me suis amusé avec ça. Et du coup, j'ai réglé la machine à remonter le temps sur un moment qui m'excitait particulièrement musicalement, à savoir les années 40.
Les années 40. Alors le concert Time Machine Experience est un projet inédit que vous avez comme ça initié. Ça a été un moyen pour le groupe de se réinventer. Vous rejouez de vieux morceaux avec,
et les récents aussi,
avec des nouveaux, avec des récents, dans une version très particulière. Vous plongez donc dans les années 40 avec le visuel de l'époque, avec la technique de l'époque, c'est-à-dire pas d'instruments amplifiés, un seul micro pour capter l'ensemble. Et le défi, c'était de jouer comme les artistes des années 40. Pourquoi vous êtes infligé ça?
En fait, c'est une petite contrainte amusante.
Sacrée contrainte.
Ouais, mais c'est comme dans n'importe quelle histoire. Une bonne histoire, finalement, c'est quoi? C'est toujours un personnage qui part d'un point A à un point B et on lui met un obstacle. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse, il vole, il contourne. Donc, c'était comment on allait se débrouiller avec ça? Et puis, c'était aussi une histoire de goût. Parce qu'on aime ce côté blues du Mississippi, bluegrass, le début du swing. En fait, juste avant le rock'n'roll, la préhistoire du rock'n'roll, avant que la musique noire et la musique blanche fusionnent, quand il y avait, on venait du blues et de la country en même temps, juste avant, comme ça, c'était en gestation, ça nous plaît.
Le nouvel album de Dioniso sortira en mai. Votre concert Time Machine Experience sera donné sur Internet jeudi 4 mars à 20h, heure française de métropole. Inscription 15 euros sur dioniweb.com. On affiche cela en dessous de l'écran. Et puis, on peut le voir partout où on est.
Exactement.
Ou que l'on soit dans le monde.
Que merci pour l'invitation, parce que dans le mal pour un bien de ces concerts-là, c'est un concert qu'on pourra voir dans plusieurs pays.
Bon, merci Mathias.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Dans un instant, un roman turc autour d'une star du cinéma et des secrets de famille avec Sedef Edger. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Non, on ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello. Bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. La mer, voir si la lune est claire, de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres. Pas voulu perdre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout qu'on est.
C'était Nous. Bon, voilà. Le nouveau titre de Julien Doré.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires, deuxième partie. Un coup de gueule, tiens, ça tombe bien. En Suisse, Claire Renaud.
Oui Emmanuel, c'est surtout un constat regrettable. Durant notre confinement à Genève, certaines librairies sont restées fermées le samedi. Donc les clients qui souhaitaient retirer leur commande ou commander quelque chose se retrouvaient devant des portes fermées. Et je crains qu'ils aient du coup commandé sur le net. Alors la bonne nouvelle, c'est que heureusement, nous allons pouvoir ouvrir lundi 1er mars. Et je voulais juste faire un petit rappel à notre gouvernement, c'est que le livre est un bien essentiel, mais pas le ski. Fallait que je le dise.
Pas le ski, oui, c'est sûr. C'est bien vu, c'est bien vu. Et réouverture des librairies le 1er mars en Suisse, très attendu. Merci Claire, un coup de cœur pour le Canada, Josiane Letourneau.
Oui, Emmanuel, quand on a besoin de dépaysement, je trouve difficile de trouver mieux qu'un roman qui se déroule au Japon. Et dans Le fantôme de Suzuko, publié chez Heliotrop, Vincent Brault nous propose une histoire autour du deuil et de l'amour naissant, où l'on suit la trace de ces personnages dans les quartiers de Tokyo et que ça fait du bien en ce moment. Une œuvre qui évoque l'étrangeté, l'obsession, où l'on côtoie le monde de l'art contemporain et ses musées, avec une écriture qui me rappelle celle d'auteurs japonais que j'aime, de ceux qui tissent leurs histoires tout en sobriété. Bref, un voyage tout en mystère, en atmosphère et en fascination, avec des kaomoji en prime.
Parfait. Des kao quoi?
Des kaomoji, ce sont des émoticons qui sont créés avec des caractères typographiques dans les textos.
Ah oui, d'accord. Très bien.
Oui.
Bien. Vous connaissiez ça, Florence? Vous connaissez ça? Les kaomoji? Ah oui. Tout le monde connaît apparemment. Très bien. Le fantôme... Elle fait exprès, Florence Hôtel ne connaît pas. Le fantôme de Suzuko, donc de Vincent Brault, édition Heliotrop. Merci à vous. Bonjour, c'est Defedger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez Trésor National aux éditions Jean-Claude Lattès, une fresque turque sur fond culturel et politique. Vous abordez les différents coups d'État qui ont changé la vie des Turcs et leur liberté aussi, le régime qui a commis des crimes en grand nombre. Votre personnage, Esra, est une grande comédienne qui a vécu des tourments. La Turquie est-elle une comédie, CDF?
Bah, un peu comme tous les pays, oui, il y a des moments tragiques comme ça, mais ces coups d'État sont là surtout pour rythmer en fait le récit. Moi, mon histoire, c'est surtout une histoire d'amour, c'est une déclaration d'amour. C'est une histoire d'amour entre une femme et un homme. Et puis un autre homme,
oui, oui.
Et puis une femme et le cinéma et le théâtre, oui, oui. Et puis l'ancien Moyen-Orient aussi, l'ancienne Istanbul qui n'existe plus que dans les films de Esra Zaman, qui est cette, oui, actrice. Donc.
Oui, mais c'est vrai qu'on pense à la comédie humaine quand on lit votre livre, parce qu'elle est comédienne. Et puis vous racontez comme ça tous ces tourments, tous ces changements, ça change tout le temps en Turquie.
Oui,
et puis, on joue la comédie souvent.
Bah, c'est vrai, et puis je me suis dit, comme ça, je vais la raconter à travers ses grands rôles. Évidemment, elle a joué des navets au cinéma, hein, comme produisait le cinéma turc par centaines, des mélos, tout ça un peu kitsch, mais en même temps, elle s'est aussi confrontée aux grands textes. Elle a joué du Ibsen, du Brecht, du Shakespeare, du Molière, dans des grandes traductions. Mm-hmm. Donc le théâtre national turc était merveilleux à l'époque. Et ces grands textes viennent aussi dans le roman, parce que ces grands auteurs sont là aussi, ces grands auteurs, ces grands dramaturges, pour nous rappeler que l'histoire se répète.
Et oui, c'est ça. Oui. Votre narratrice est la fille de cette grande comédienne nommée Trésor National par l'État. Elle en est toute fière. Elle doit rendre hommage à sa mère en prévision de sa mort, à la demande de celle-ci. Mais il faut réveiller le passé, réveiller les fantômes. Pourquoi est-ce si difficile pour elle, ça?
Bah parce qu'elle a été témoin d'une tragédie et dont elle tient responsable sa mère, mais je peux pas en dire plus.
Non, c'est difficile. Ouais, c'est difficile.
Mais ce que je peux dire peut-être, parce que ça c'est dit très vite dans le roman, c'est que elle dit qu'elle va mettre en scène ses funérailles,
ouais,
en fait.
Ouais.
Donc elle dit, voilà, on va prendre le théâtre de la ville, 16 mètres d'ouverture, c'est parfait, mon cercueil sera au milieu, ma scénographe va faire la scénographie, mes grands rôles seront là, des extraits, on va lire, etc. Écris-moi quelque chose. Sinon, ça va manquer.
Oui.
C'est tout ce qui la préoccupe. Et sa fille dit, mais non, mais elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle me demande. Parce que ça fait plusieurs décennies qu'elles ne se sont pas vues.
Voilà. Il y a une multitude de mensonges, en tout cas dans cette histoire, et surtout des faux-semblants, des illusions. Cette comédienne que l'on déclare trésor national sera très vite écartée du monde culturel et institutionnel turc. Ça bouge très vite, rien n'est fiable en fait.
Oui, mais elle va trouver une manière d'exister parce que c'est une femme libre. Elle a bien sûr beaucoup de défauts, mais elle est pleine de contradictions comme plein d'artistes en même temps. C'est une femme libre, voilà. Et je me suis inspirée de beaucoup de comédiennes que j'ai connues de sa génération. Donc c'est une femme qui est née en 1934, l'année où les Turcs ont obtenu le droit de vote, 10 ans avant les Françaises d'ailleurs. Et j'ai choisi ça comme date de naissance pour cette femme. Et je me suis inspirée de beaucoup de grandes comédiennes turques et françaises que j'ai eu la chance de connaître.
Il y a une histoire d'amitié qui donne espoir, en tout cas à Sedef Edjer, celle entre Ishak et Ismaïl. Tous deux d'origine sociale très différente, ils vont grandir ensemble grâce à la générosité des parents d'Ishak. C'est une belle histoire, ça.
Oui, au départ, oui, bien sûr, parce que c'est un peu la Turquie blanche contre la Turquie noire. Ouais. Hein, c'est vraiment Ismaïl et Ishak, bon, c'est aussi des prénoms que j'ai choisis un peu bibliques comme ça. Et Ismaïl, il veut s'en sortir avec la rage des naufragés. Il s'accroche à la vie. Et puis, il va être pensionnaire d'État, il va avoir une bourse, il va faire des grandes études, comme c'était possible de le faire.
En Turquie, on avait ça aussi. Ouais.
Et Ishak, c'est la grande bourgeoisie istanbouliote qui grandit dans les stations de sport d'hiver, qui va aller à San Francisco pour faire ses études. Et là aussi, vous voyez, je me suis inspirée de ma famille, enfin de voilà.
Alors, il faut savoir, Sedef Edjer, parce que là, ça fait deux fois que vous faites allusion, que vous avez été une star du cinéma en Turquie lorsque vous étiez enfant.
Oui, ça m'est arrivé, ça, oui.
Mais longtemps, pendant 7 ans.
Mes parents étaient un peu comme la bande de Esra, de mon personnage. C'était une bande il y avait des artistes, des réalisateurs, des acteurs, des auteurs qui ont dit un jour, quand j'avais 3 ans, il est doué. Je sais pas comment on peut être doué à 3 ans. Tous les enfants sont doués. Ils ont dit, on cherche une petite fille. Donc, je suis montée sur les planches et j'en suis plus descendue. Et j'ai fait 25 longs métrages, ce qui n'est pas super sain pour un enfant. Mais j'étais quand même très entourée, tout ça, par mes parents. Mais c'est vrai que les gens me touchaient dans la rue, je recevais des lettres, je les ai encore, des lettres d'admirateurs, de fans. J'ai fait plein de couvertures de magazines entre mes 3 ans et mes 11 ans. Donc c'était assez fou comme enfance.
Alors c'est vrai que du coup on pense à tous ces personnages, on imagine qu'ils ont existé, on se demande à chaque page s'ils ont existé et à qui vous rendez hommage. Là on comprend un peu mieux. Ishak va devenir le mari d'Esra, Ismaïl l'amant toléré. L'amant intégré même, on raconte pas tout dans le couple, mais c'est la politique dont ils sont passionnés tous les deux qui va briser la famille, qui va générer des non-dits et des suspicions. Ça a tout gâché, tout la politique.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont au départ, ils veulent tous les deux sauver le monde. Voilà, ce sont des gens qui sont nés dans les années 30 et qui... c'est une jeune république, il ne faut pas oublier. Hein, la Turquie naît, la République turque naît en 1923. Et ils veulent faire du bien et puis petit à petit, leurs chemins vont se séparer, vont diverger, ils vont devenir des frères ennemis.
Oui, pas tant que ça. Bon, on va pas tout raconter. Ouais. Allez, on va du côté des libraires avec la France et la Belgique. La France en Martinique, Anne-Rosine Calabro. Qu'avez-vous pensé du roman de Sedef Edjer?
Alors, j'ai adoré le roman Trésor national. Alors, malgré un très grand nombre de personnages et de détails qui en ont rendu la lecture un peu ardue, j'ai trouvé ce roman très fort et vraiment bouleversant. Et je suis carrément tombée sous le charme d'Esra Zaman. Je trouvais que c'est un personnage atypique, avant-gardiste, féministe à sa manière, ce qui, à mon avis, a dû être difficile pour l'époque. Vraiment, c'est un roman formidable et c'est une formidable déclaration d'amour d'une femme à sa mère.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, hein, Sedef Edjer. On s'y est un peu perdu. Moi, je m'y suis un peu perdu parce que c'est très, très dense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il faut le lire peut-être petit à petit, hein, pas d'une traite comme on le fait nous ici dans cette émission, évidemment. Nathalie Clairin, êtes-vous d'accord avec votre collègue en Belgique?
Oui, moi, totalement. Moi, je ne vais pas tarir d'éloges sur ce roman. C'est une fresque si dense d'événements politiques et culturels. Moi, je suis totalement admirative. En plus, vous arrivez à entrelacer ça dans une lettre d'amour si longue, une lettre d'amour filiale de 360 pages, et pas une seconde, je me suis ennuyée. Et il y a cette relation mère-fille aigre-douce, mais que j'ai trouvée tellement intéressante, elle vient nous rappeler encore une fois combien c'est nécessaire de se réconcilier un jour ou l'autre avec ses origines. Moi, c'est des faits sœurs, je trouve qu'on tient avec votre roman une véritable perle.
Une véritable perle. Merci. Voilà ce qu'on retiendra avec cette liaison très difficile. Toutes nos excuses une nouvelle fois. Vous avez séduit nos libraires, vous êtes contente?
Oh, bah évidemment, merci beaucoup.
Elle avait peur, c'était, elle était là, elle faisait la grimace avant. Bon, la narratrice raconte son enfance avec sa mère, star de la comédie. Elle dira avoir du mal à l'applaudir avec le public. Ce qui lui fait mal, ce sont les rôles qu'elle endosse, comme si elle finissait par devenir une autre dans la vie. C'est ça qu'elle croit toute sa vie.
Oui, vous savez, quand on travaille un rôle, surtout il y a toute une histoire avec Tchekhov, qu'elle est en train de devenir une femme russe dans cette cuisine, elle change de voix, elle change même d'odeur, elle dit. Et c'est vrai, c'est les grandes comédiennes, c'est ça aussi. Donc j'imagine que c'est difficile pour une fille, oui.
Vous écrivez, tu as fait comme si tout ça n'existait pas. Tu as passé ta vie à raconter des histoires pour ne pas voir la tienne. Ta mère et toi, au lieu d'affronter votre vraie lignée, vous avez préféré la rêver sur scène.
Oui, parce qu'il y a un secret national aussi. Le trésor national, c'est aussi le nom d'un secret qu'on va découvrir à la fin du roman.
Voilà. Parce que la maman, la grand-mère était aussi comédienne aussi.
Exactement, c'était la première actrice musulmane. Et là, je me suis inspirée de Hafifa Jaleh, qui est un vrai personnage. Vraiment la première femme musulmane qui a osé monter sur scène. Parce qu'avant elle, c'était que les Arméniennes et les Grecques.
On va terminer avec cette phrase à la fin de votre livre, c'est d'Efetjer. Vous écrivez une phrase empruntée à Camus. Ce sont les rêveurs qui changent le monde. Les autres n'en ont pas le temps.
C'est vrai.
Vous êtes une rêveuse ?
Complètement. Oui, vous savez, quand on a été comédienne enfant, c'est qu'on a un rapport à la réalité qui n'est pas tout à fait solide. Donc je pense que je suis une vraie rêveuse. Oui.
Ça a fait avancer votre vie, ça, de rêver ?
Je pense, oui. J'ai surtout appris à accepter, mes proches ont appris à accepter, je pense, mon rapport au réel.
Oui. Et du coup, ça a donné quoi ?
Bah, des livres, des pièces de théâtre, des films, voilà.
Du concret quand même.
Du concret quand même, bien sûr.
Bon, merci beaucoup, c'est Efetjer.
Merci à vous.
Merci d'être venu dans la librairie francophone. Trésor national, c'est votre premier roman en français et paru chez Jean-Claude Lattès. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci. Florence, la rêveuse, elle est rêveuse.
À bientôt, oui.
C'est Stakounet.
Moi aussi, je rêve aussi.
Bah oui, carrément. Oui. Bon, merci à vous. On termine avec un artiste francophone originaire d'un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui, on écoute le rappeur Balti, qui est numéro un en ce moment en Tunisie.
حسره مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غسره فكرت ايامي وقلت يا حسره مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غسره ضحكت لامي ما ايه ونسب القيمه ايه وعشره قديمه ايه وقلت يا حسره رضيت ولدينا ايه وينك يا حنينة ايه تفرقنا مشينا ايه وقلت يا حسرة ما احلينا ذريري ذريري الدنيا ما احلاها ماما وزينها ديما مواتيها ما احلاها الحومة ديما الحومة مظلومة قتلتنا الشيخة وزادت قتلتنا الحكومة قسمنا اللي فما ايه وكل حد وهمة ايه وكنا محلانا واليوم زماما ايه وبكات الماما ايه خشومات في الشمة ايه شكون اللي بلانا فكرت اصحابي حبوا على خرابي عطيتهم مترابي فرشوش وكفرش نزرابي عيب على روحي ما نعيبش على قرابي رقدت ونحلم وفكت نجري على سرابي وفي غيبوبة ايه وينك يا صحوبة ايه وطلعوا ذيوبة ايه وناس خوانا يوصنا مقلوبة ايه وقلب بالتوبة ايه وايام محسوبة والوقت خذانا فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غسرة فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلاها
ضحكت لميمة إيه وناس بالقيمة إيه وعشرة قديمة إيه وقلت يا حسرة رضيت والدينا إيه وينك يا حنينة إيه تفرقنا مشينا إيه وقلت يا حسرة.
Un extrait de Yara Serra de Balti, numéro 1 en ce moment en Tunisie. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Stéphane Combe et le grand Kevin Pelot, à tous les sens du terme, à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France, Nicolas Julliard et Sophie Grécoucho en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada, Thierry Dupin était à la prog musicale. Le grand voyage continue la semaine prochaine. Faites attention à vous surtout et merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous.